environnementaux, ils sont déjà ressentis dans beaucoup de coins du monde et nous imposent des solutions politiques, donc forcément. Mais l'effondrement de la biodiversité est un problème qu'on a du mal à comprendre ici, mais qui est très bien compris par les pays du Sud, pour des raisons multiples, sanitaires, médicales, et puis même liées de toute façon au réchauffement climatique. Dans toutes ces dimensions, et c'est ce que j'ai observé à chaque fois, c'est ce que j'essaye de démontrer, ça n'est pas des engagements moraux qui amènent ces pays à avoir une expérience dite écologique, puisqu'on va l'appeler comme ça maintenant. Ça ne sait, à Cuba, on ne dit pas ça, par exemple. Mais on fait du bio dans tout le pays. On a restreint l'utilisation des pesticides sur tout le territoire par la loi. Pourquoi ? C'est pas parce que... Parce que franchement, c'est coûteux, concrètement. Mais un pays qui est dans une logique de souveraineté nationale contre l'impérialisme est obligé de considérer son sol et ses richesses naturelles, on va dire, son territoire, comme une richesse à protéger. Et l'agro-business ou les politiques énergétiques ou l'impérialisme à l'extérieur comme un prédateur qui va détruire ce patrimoine écologique, ce patrimoine environnemental. À chaque fois, donc, chaque pays qui s'est retrouvé confronté à l'impérialisme est obligé de protéger ses ressources, à la fois énergétiques et agricoles, de l'extérieur, a été forcé d'une certaine façon d'avoir des réflexes qu'on appellerait aujourd'hui écologiques. Bah, franchement, en tant que matérialiste, je trouve ça beaucoup plus rassurant de faire confiance à des pays, des partis ou des groupes humains qui font de l'écologie sans le savoir ou sans le vouloir ou sans l'annoncer ou sans en faire la publicité, qu'il y a des gens qui ne font que parler d'écologie sans qu'il n'y ait jamais de résultat après. Vous voyez un peu l'idée, quoi. On est dans une opposition entre le matérialisme et l'idéalisme. Bon, l'idéalisme ici visant à faire croire que le capitalisme pourrait faire quelque chose pour solutionner les problèmes qu'il a lui-même provoqués.
Les salades disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète. Oops.
raison d'être.
Radio Campus.
J'ai compris. Vous pouvez compter sur moi, j'ai compris. Ouais, ouais. Comment ça, j'ai pas compris? Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'avais pas compris.
106,6.
Tout ça pour dire que dans les questions, de l'écosocialisme tel qu'on pourrait les penser aujourd'hui, moi, ça m'intéresse de plus en plus. Au début, la question de l'écosocialisme m'intéressait peu parce que je voyais dans ce mouvement juste une exégèse des textes de Marx. Et pour vous dire la vérité, qu'on trouve, c'est vrai, hein, que évidemment que Marx et Engels ont annoncé beaucoup de choses sur les questions d'épuisabilité des ressources aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils s'appuyaient, eux, sur la science. Ils s'appuyaient sur des agronomes et des chimistes comme Liebig pour découvrir qu'effectivement, l'agriculture intensive va dans le mur parce que les ressources sont épuisables. Donc, Marx l'avait déjà vu. Mais au fond, c'est pas tellement ce qui va régler nos problèmes aujourd'hui. Hein, c'est pour se rassurer, pour dire que Marx avait raison. Moi, je suis d'accord qu'il avait raison, évidemment, Engels aussi. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît plus important que cela, n'est pas de sauver Marx, parce que bon, je pense que dans l'état de crise actuel du capitalisme, il se sauve tout seul. Hein. On voit bien le regain d'intérêt qu'on a pour le marxisme aujourd'hui, pour la critique du capitalisme qui reste ô combien valide. Hein. Mais l'expérience des pays socialistes concernant les questions qu'on se pose aujourd'hui, y compris dans le mouvement écologiste, mouvement écologique, sont, à mon avis, cruciales. Je le dis par parenthèse, parce que j'en ai parlé beaucoup dans un autre livre, mais en Union soviétique, ça peut vous paraître bizarre que, on parle d'une URSS écologique. Mais mes recherches m'ont conduit à considérer qu'il y avait deux périodes en Union soviétique, historiquement, qui l'une se terminant, enfin commençant en 21 plus ou moins, avec les premiers décrets sur les protections de la nature et la création de ce qu'on appelle les apovetniks, qui sont des réserves naturelles de plus haut niveau, qui ont été créées à ce moment-là en URSS, parce que enfin, l'Union soviétique est un territoire immense, avec une diversité extrême de paysages, d'écosystèmes, etc., qui était bien évidemment une richesse à préserver, depuis même avant les soviétiques en réalité. Donc cette période s'achève en 52, pour donner une date. Voilà. C'est toujours difficile de trouver une date, mais en 52, moment d'abandon de ce qu'on a appelé de 48 à 52 le grand plan de transformation de la nature, qui est un plan agricole d'après-guerre, entièrement agroécologique, fait sur c'est l'agriculture extensive. Donc si on étudie un peu la question, l'agriculture extensive, c'est la question de fertiliser le plus de surface possible de sol. Ça n'est pas de doper à mort une surface fixe de sol pour produire autant. Donc l'agriculture extensive, dans un grand pays, se comprend très bien, mais a amené les scientifiques soviétiques, les agronomes en particulier, à se poser des vraies questions scientifiques sur la fertilisation des sols et donc sur le caractère délétère évidemment des pesticides, des engrais chimiques, etc. Non pas qu'il l'ait jamais utilisé, mais il y avait une prudence vis-à-vis de la chimie qui mettait à l'honneur ce qu'on n'appelle plus vraiment maintenant comme ça, mais l'agrobiologie et non plus l'agrochimie. Ça, c'était l'objectif du grand plan de transformation de la nature en Union soviétique après-guerre. Avec des immenses bandes forestières, c'est de l'agroforesterie, hein, pour ceux qui connaissent un peu, qui considèrent que l'arbre est le catalyseur d'une agriculture saine et durable. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, c'est vraiment des principes de la permaculture, mais en grand. Voilà. Et ces éléments-là sont encore défendus par les écologistes russes aujourd'hui, dans les vestiges qui existent encore dans le sud de Moscou, vers la mer Noire, où on a encore des subsistances de grandes bandes forestières qui servaient à protéger les champs de polyculture de l'époque. Et puis on est passé après, avec Khrouchtchev, à une deuxième période, qui est celle que tout le monde connaît, et qui est la période de pollution, d'agriculture intensive, d'utilisation massive de chimie dans l'agriculture, sous un modèle qui a été théorisé par Khrouchtchev, qu'on appelait Monsieur Maïs, et dont le principal objectif était de faire pousser du maïs sur tous les endroits possibles et imaginables en Union soviétique, quelles que soient les différences, la diversité des types de sols de ce pays. et qui n'en est jamais vraiment complètement sorti, quoique en étudiant un peu la question, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de bio en Russie et que ces acquis-là viennent effectivement d'une histoire plus longue, quelquefois oubliée. Donc j'essaye de remettre à l'honneur cette première partie de l'histoire soviétique qui contredit beaucoup de clichés qu'on a sur l'Union soviétique, mais qui montre que à une époque, et franchement 48-52, c'est pas la période la plus faste, hein, la période de reconstruction après la guerre. Normalement, c'est la période où toute l'Europe s'est soumise au démembrement et à l'agriculture intensive fulgurante, hein, les années 40-50. Donc là, on était dans un contre-modèle où, si vous allez chercher dans la littérature scientifique ou politico-scientifique de ces années-là en Occident, on avait plein d'agronomes et de biologistes qui se moquaient des soviétiques parce qu'ils n'utilisaient pas de pesticides et pas d'engrais chimiques et qui prétendaient, donc voilà, c'était tous les clichés anticommunistes avaient cette forme-là dans les années 40-50 et donc ils étaient à contre-courant complètement. Alors si on relit ça maintenant, évidemment les mêmes vont être mal à l'aise, quoi, hein, puisque ceux dont ils se moquaient à l'époque et clairement ce vers quoi ils tendent aujourd'hui, hein, concrètement. Voilà, donc, je regarde un peu mes notes. Oui, voilà, je voulais conclure sur un truc par rapport à ça, et puis deux choses. Je ne sais pas, après, Quentin, il ne m'a pas dit combien de temps j'avais. Bon, j'y vais. Ouais. Si vous êtes encore en forme, je continue. Moi, je dirais pas de problème, ça va aller. Je voulais vous montrer un petit schéma qui me paraissait... bien, mais je vais quand même le commenter avant, un petit schéma qui explique justement cette convergence d'intérêts qui fait que l'écologie n'est possible que sous socialisme, mais est quand même déjà possible avant le socialisme sous certaines conditions. Il y a des expériences écologiques ici, il y a des fermes bio, ça n'est pas entièrement impossible sous le capitalisme de faire de l'agriculture bio ou de développer des énergies renouvelables. On en voit partout, on voit des éoliennes partout. Donc c'est pas tellement l'objet de ma recherche, serait plutôt d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'on n'y arrive pas, parce qu'il faut plusieurs facteurs. Il faut plusieurs facteurs que les écologistes occidentaux souvent méconnaissent eux-mêmes. Les écologistes occidentaux fonctionnent sur l'idée qu'il faudrait revenir en arrière et s'opposent aux marxistes parce que les marxistes, depuis Marx et Engels, disent qu'il faut développer les forces productives, n'est-ce pas ? Et donc le productivisme, puisque c'est ça qui est accusé dans le marxisme et puis dans les expériences socialistes qui ont suivi. Développer les forces productives, c'est pas forcément produire énormément d'énergie. Les forces productives, c'est pas la production énergétique. Les forces productives, moi je le comprends en tant que biologiste, et c'est mon angle d'attaque, comme le fait de passer de l'agriculture intensive à la permaculture ou l'agriculture extensive respectant les sols, c'est un développement des forces productives. Parce que ça implique un savoir scientifique décuplé. Faire de l'agriculture intensive, c'est pas très compliqué pour les cultivateurs. C'est ramener des sacs d'engrais, c'est labourer d'une certaine façon, c'est nier les particularités des types de sols ici ou là, et faire la même chose partout et planter, des fraises partout, quel que soit le climat, etc. C'est ça l'agriculture intensive. Donc ça ne nécessite pas beaucoup de science finalement, ça nécessite beaucoup de chimie, ce qui n'est pas la même chose. Faire de la permaculture extensive, ça nécessite de la recherche en biologie. Je dis ça parce que la biologie est souvent l'enfant pauvre des sciences naturelles. Hein, on met toujours au-dessus, on pense directement à la physique et à la chimie, et la biologie est toujours un peu mise à l'écart. Mais la biologie utilise la physique et utilise la chimie, mais d'une certaine façon, une façon beaucoup plus généraliste, je dirais, beaucoup plus large. Et c'est grâce aux connaissances en biologie qu'on arrive à fonder des théories sur l'agroécologie, concrètement. Ça demande du savoir universitaire, ça demande de transférer ce savoir aux cultivateurs, ça demande en somme à ce que les cultivateurs eux-mêmes, ceux qui vont produire bio, pour aller vite, soient eux-mêmes des ingénieurs de leur sol. Et ça, c'est un développement des forces productives. C'est redevenir actif par rapport à sa culture. Donc, de ce point de vue-là, Il me semble qu'on ne peut pas parler de productivisme quand on parle de ce type de développement des forces productives. Un autre exemple, c'est par exemple, sans parler trop d'intelligence artificielle, mais vous voyez, l'intelligence artificielle peut faire des choses horribles, nier l'humain ou l'intelligence humaine, mais l'intelligence artificielle permet aussi, par exemple, de fabriquer des herses, des herseuses, vous savez, ce qu'on met devant les tracteurs pour faucher hein, dans les champs, avec des ciseaux, et des caméras qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle pour distinguer les mauvaises herbes des plantes cultivées. Vous voyez, à très grande vitesse. Ben ça, c'est pas du technosolutionnisme. C'est bien sûr à l'étude. Et je dirais même que c'est un bon exemple de développement des forces productives parce que ça ne marche pas quels que soient les types de sols. Ça marche. Il faut faire une herseuse pour telle culture et tel sol, une autre machine pour telle autre culture et tel sol. Donc cette diversité technique, c'est un développement des forces productives. C'est pas le même tracteur pour tout le pays. C'est pas la même herseuse pour tout le pays. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, développer la science et la technique, c'est aussi ça. Et ça n'est pas du techno-solutionnisme. Vous savez, le techno-solutionnisme, c'est la critique que je trouve légitime, disant le capitalisme va continuer à polluer, mais trouvera en même temps les solutions qui lui permettront de continuer, parce qu'elle va corriger, absorber le CO2 en trop dans l'atmosphère, des trucs comme ça. Donc ça c'est effectivement une impasse, et c'est vraiment un rêve qui sera jamais atteignable. Par contre, une telle herseuse est une solution technique, est une solution de la recherche, mais c'est une solution qui permet d'empêcher l'utilisation des herbicides. Donc on n'utilise plus la chimie grâce à ça. On ne pollue plus les sols. Donc on respecte leur fertilité et on est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle une agroécologie. Je ne sais pas si ce serait défendu en tant que tel par les écologistes, qui sont pour un retour, je dirais, un point de vue aussi très occidental, parce que finalement dans le mouvement progressiste, très anti-science, quoi, très réactionnaire, hein, pour dire les choses. Revenir au Moyen-Âge, parce qu'à l'époque, on ne polluait pas. Là, on est dans le passage à autre chose qui est plus compliqué, qui nécessite beaucoup plus de science. Vous savez que la science coûte cher. La recherche scientifique est coûteuse, puisqu'elle ne produit pas de plus-value immédiate. Hein, c'est de l'investissement sur le long terme. C'est très coûteux. Et c'est pas sans raison que les pays socialistes sont souvent leaders dans des... Bah, c'est les premiers à avoir envoyé quelqu'un dans l'espace, quoi. Je veux dire, c'est pas pour rien non plus, hein. C'est pas juste pour faire semblant par rapport aux Américains. Il y avait quelque chose derrière qui était de l'ordre de la capacité à investir massivement dans des trucs qui sont pas directement rémunérés le lendemain. De même que les barrages hydroélectriques ou des infrastructures comme ça qui sont extrêmement coûteuses et aucun patron ne dépensera de l'argent. Ils rachèteront derrière, mais c'est toujours les États, même capitalistes, qui vont financer ce genre d'infrastructures. Donc, pour avoir de l'écologie réelle, puisque c'est un peu mon concept, l'écologie réelle, un peu comme le socialisme réel, vous voyez, c'est-à-dire réellement appliquée, soumise à la critique, mais avec des résultats tangibles qu'on peut regarder. L'écologie réelle, ça demande trois conditions qui peuvent s'exclure les unes les autres. Il y a une condition qui serait donc la capacité à investir massivement pour la recherche scientifique et la technique, donc le développement de ces forces productives-là. Il y a la possibilité légale de faire ce qu'on veut dans notre pays. Ça, c'est l'exemple de Cuba qui fait une loi pour interdire les pesticides partout, ou qui décide de remembrer son agriculture qui était intensive du temps de son partenariat avec l'Union soviétique post-Khrouchtchevienne, et qui, à un moment donné, après la période spéciale, décide de remembrer et de donner à des collectifs de travail des parcelles plus petites où on peut faire de la polyculture, en faisant des restrictions drastiques sur l'utilisation des pesticides et de la chimie. C'est une possibilité qui n'existe que dans les pays socialistes. Il n'y a aucun autre endroit où il n'y a pas de grands propriétaires terriens, si vous voulez, à qui il faut demander à Cuba, les collectifs de cultivateurs, ce que j'appellerais des colcos, quoi, bio, des colcos bio, ne payent pas de loyer. Hein. Ils ne sont pas propriétaires de la terre, qui reste à l'État, mais qui leur donne en usufruit gratuit. Ils ne payent pas de loyer. Je pense qu'il y a beaucoup de cultivateurs bio ici qui rêveraient d'avoir ça. Hein. Et dont le principal problème, c'est effectivement la rente, quoi. Donc cette possibilité légale. Et troisième chose, mais qui me paraît encore plus importante que les deux autres, c'est la nécessité d'indépendance nationale et d'autosuffisance alimentaire et énergétique. On peut voir par exemple à Cuba que c'est peut-être le premier catalyseur d'une politique qui a été agroécologique et diversificatrice en termes de sources d'énergie. Parce qu'ils se disent, mais si on a une centrale, je suis pas anti-nucléaire, mais si on a une centrale ou une centrale électrique, allez, disons, pour tout le pays, bah, on va nous bombarder, on n'aura plus rien. Donc il faut diversifier et adapter à tous les endroits des sources d'énergie pertinentes, parce que c'est une façon de nous protéger contre l'impérialisme américain. Et pareil, l'autosuffisant alimentaire nécessite de diversifier. Vous connaissez un peu les colonies ou les néocolonies qui sont maintenant devenues des pays producteurs d'un seul truc. Hein, je veux dire, comme Cuba était productrice de canne à sucre à une époque, ou de blé, ou de céréales à une autre époque. Diversifier sa production, faire de la polyculture, c'est à la fois quelque chose qui va retentir dans l'esprit des permaculteurs actuels, mais c'est aussi une nécessité non écologique du point de vue des pays qui subissent, et qui ne sont pas forcément socialistes, mais qui subissent l'oppression impérialiste, ou l'agro-business, enfin les contraintes du marché, etc. Donc là-dedans, moi j'avais fait un truc comme ça, vous voyez, où il y a trois ronds avec l'écologie réelle au milieu, si vous voulez, qui serait la convergence de ces trois conditions. On a le savoir, hein, donc la science, on a la possibilité, je dirais, légale et politique de le faire, donc dans un pays à cadre, à juridiction socialiste. Et puis, we want, ça veut dire, c'est la volonté, quoi, finalement. On peut très bien avoir les deux et ne pas avoir le moteur politique pour le faire, puisque, enfin, je le dis parce que la période post-Khrouchtchevienne en Union soviétique n'a pas remis en cause les fondements, légaux du socialisme à l'époque. Je ne vais pas dire qu'à partir de 52 ou 53, l'URSS n'était plus socialiste. C'est pas vrai. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça d'avoir une analyse sur un pays aussi compliqué que l'Union soviétique. Mais dans cette deuxième période, on ne faisait plus cette écologie qu'on avait tenté, en tout cas, dans la première période. Donc, être socialiste n'est pas une condition nécessaire et suffisante. D'accord ? Mais une fois qu'on a dit ça, on reste matérialiste. Finalement, on est presque en train de construire une théorie de l'écologie dans un seul pays, comme à une époque, on parlait de socialisme dans un seul pays, hein, c'était à longtemps qu'on disait ça, mais cette théorie du socialisme dans un seul pays contre la théorie trotskiste de la révolution permanente, où on ne peut faire la révolution que d'une seule fois, dans tous les pays à la fois. C'était ça, hein, l'idée, en gros, après avec des nuances, mais du trotskisme dans les années 30, qui était confronté à la théorie léniniste du socialisme dans un seul pays, qui n'était pas une théorie disant il y aura le socialisme que en URSS et jamais ailleurs, mais c'était juste l'expression d'une possibilité de construire le socialisme quelque part, même s'il y a un encerclement capitaliste. Toute l'histoire des mouvements de construction du socialisme au XXe siècle montre que jusqu'à un certain point, on n'arrête pas l'encerclement capitaliste, mais jusqu'à un certain point, c'est possible, et y compris du point de vue de l'écologie, y compris du point de vue des avancées écologiques, même si elles ne se disent pas comme telles, puisqu'à Cuba, on dit bio, on dit ces choses-là, mais on ne fait pas la pub, on devrait quoi. On devrait faire la pub de ces acquis, parce que les écologistes ici sont encore sourds à ces expériences, peut-être plus en France qu'aux États-Unis, comme je disais tout à l'heure, et en Chine, c'est pareil, quoi. L'attention qu'on devrait avoir sur les acquis dans ces endroits-là gêne à la fois, je dirais, dans le mouvement progressiste occidental, disons les tendances trotskistes qui en général aiment bien l'écosocialisme. Je ne l'ai pas dit, mais parce que quelque part, parler de réchauffement climatique, c'est dire il n'y a pas de réponse locale. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce n'est pas un pays qui va résoudre le problème du réchauffement climatique. C'est toute la planète, sinon ce ne sera pas possible. Mais l'exemplarité d'une avancée réelle sur ce domaine de la part de la Chine, par exemple, ressemble beaucoup à l'exemplarité de la construction du socialisme à une certaine époque, face à la crise de 1929, hein, dans une autre époque, au siècle dernier. Donc les éco-socialistes ici ont souvent une origine un peu trotskiste, parce qu'ils aiment bien cette idée que de toute façon on pourra changer, on pourra revenir en arrière en termes de réchauffement climatique que d'une seule fois, quoi. Il n'y aura jamais de réponse locale à ce problème global. Et ça, c'est un peu une forme de pensée chez les trotskistes, sans vouloir polémiquer là-dessus, hein, mais c'est mon point de vue, voilà, c'est mon point de vue, je l'ai appris comme tel.
J'ai tout laissé dans mon bel appartement, un genre de loft du 11e arrondissement, pour m'en retourner à la terre, pour m'en retourner à la terre. J'ai quelques chèvres, des canards et des agneaux. Je fais du fromage, du foie gras et du vin bio. C'est une horrible piquette, mais je la vends sur Internet. Je ne fume plus que la ganja du jardin. Je fais du tai chi dans le champ de mon voisin. C'est un baba de 68 qui fait l'élevage des truies. L'été, je loue les tables comme gîte rural. Bien sûr, j'ai peur de la mondialisation. Et pour lutter, j'anime une association. On démonte les pizzerias. All my stuff in my fucking lovely
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique. Hein.
Ah, c'est pas inintéressant. Hein.
Ah oui.
106,6.
Et puis, il y a aussi le fait que les écologistes ici, très puissants finalement, les mouvements écologistes sont rarement plus connus ailleurs qu'en Occident, en Europe et aux États-Unis. Les écologistes sont très, soit anticommunistes, soit, anti-nationalistes, d'une certaine façon, entre guillemets. Pas pour dire le nationalisme c'est pas bien de façon absolue, mais on sait bien que la libération nationale face à l'impérialisme implique cette notion de souveraineté dont le mouvement écologiste occidental est complètement hermétique et complètement allergique. C'est pas bien de dire souveraineté nationale. Parce qu'on pense à la nôtre ici en France. On pense que les souverainistes ici sont effectivement des gens de droite. Parce que c'est un pays impérialiste. Mais dans les pays qui sont opprimés par l'impérialisme, la souveraineté est une dimension historique de la lutte révolutionnaire, concrètement. Voilà, avec tous les exemples que vous pouvez imaginer. Eh bien, sur la question écologique, c'est la dernière chose que je voulais dire. Après, si vous voulez, je vous parlerai des autres trucs, parce que j'en ai pas du tout parlé, le genre et tout ça, mais... voilà, mais quelque chose qui me paraissait important...
Ça va, mon truc n'est pas tombé.
Un truc qui me paraissait important, justement, du point de vue marxiste, c'est une notion qui vient de ma culture biologique. Je m'explique. Au fond, pourquoi les États socialistes ou pourquoi les peuples en lutte contre l'impérialisme deviendraient écologiques ou seraient... c'est par eux que passerait la solution des problèmes actuels liés à l'environnement et au climat. Est-ce que c'est par un positionnement moral ou est-ce que c'est par la nécessité? Je vous ai dit que c'était par la nécessité. Tous les écosocialistes en Europe, aux États-Unis ont un point de vue moral. C'est Michael Levy et d'autres qui disent finalement le capitalisme se caractérise par une amoralité, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais donc l'écosocialisme devrait être moral du coup par opposition. Mais ça c'est un point de vue qui me paraît très idéaliste au fond. Je préfère le point de vue disant, et là je reprends Marx lui-même, disons, hein, la révolution libère l'ensemble du peuple, c'est-à-dire toutes les classes à part la bourgeoisie. Et pourtant c'est la classe ouvrière qui dirige un mouvement révolutionnaire tel qu'on les a connus au XXe siècle. Est-ce que les ouvriers ont conscience de libérer l'ensemble du peuple quand ils prennent le pouvoir? Je schématise et je vais vite exprès, mais quand ils prennent le pouvoir dans le schéma classique d'une prise de pouvoir socialiste, communiste. Non, bien sûr que non. Même dans n'importe quelle lutte dans une boîte, l'ambition révolutionnaire n'est pas forcément là. Les gens font des choses sans forcément le savoir d'ailleurs. C'est ça là, une position matérialiste. Mais par extension, je trouve que c'est un peu le même raisonnement avec l'écologie. Quelque part, des pays socialistes qui n'ont pas pour ambition de développer une politique écologique finissent par le faire et donc par résoudre des problèmes qui se posent à tous les pays, y compris ceux qui ne le sont pas, par la même transposition de leur vocation initiale. Sans vouloir compliquer les choses, les biologistes parlent d'exaptation. Et l'exaptation, ça vient du mot adaptation, hein, chez les évolutionnistes. L'exaptation, c'est un terme qui a été popularisé par un évolutionniste américain qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui était par ailleurs marxiste d'ailleurs, et qui disait, ben, en fait, enfin, je vous ai peut-être déjà entendu la phrase de la fonction crée l'organe, qui est un truc très français et très lamarckien. Lui, Gould, avait une position très matérialiste, puisque lui disait que la fonction évoluait avec l'organe. D'accord? Donc ça, c'est un truc... bien connu des évolutionnistes aujourd'hui, disant, ben tiens, finalement, l'ambition, et là je l'adapterai à la politique, mais c'est peut-être, dépasser mes positions, en tant que biologiste, c'est peut-être pas mon rôle, mais moi ça résonne ce truc-là. Je me dis, mais finalement, la transposition d'un objectif révolutionnaire pour dépasser et résoudre des questions qui ne s'étaient peut-être pas posées au début, ben, je vois aussi les questions de l'écosocialisme de ce point de vue-là, vous voyez. Et du coup, lui, bon, Gould, il parlait de l'exaltation en évolution. C'est des exemples très simples. Vous savez, par exemple, les plumes sont apparues chez les reptiles pour des raisons de thermorégulation et non pas pour le vol. C'est devenu des éléments permettant le vol qu'après. Mais la plume existait avant le vol. Ou bien les os, l'endosquelette était une façon de stocker le calcium avant d'être un élément qui permettait la locomotion. Donc vous voyez tous ces exemples, et il y en a énormément en évolutionnisme, permet de comprendre, puis lui donner un exemple aussi qu'il avait vu un jour dans un voyage, dans un de ses bouquins, disant que par exemple les pneus peuvent être, les pneus de voiture peuvent être recyclés en sandales, vous voyez. Donc cette transformation de la fonction avec l'organe me paraît à la fois très matérialiste et très anti-théologique. Téléologique, pas théologique, pardon. Téléologique, c'est-à-dire anti-mécaniciste, anti-positiviste. Le travers des premiers marxistes disant qu'il y avait des stades bien définis qui se terminaient sous le communisme et qu'il y avait une description du matérialisme historique très, très catégorisée et très mécanique, ben, se sont confrontés à une histoire qui était tout autre finalement dans la construction du socialisme, là où elle s'est faite, ne s'est jamais faite de façon mécanique, quoi. Je veux dire, en Chine, on peut pas dire... Après, il y a une discussion dans laquelle je vais pas rentrer pour savoir si c'est un pays socialiste ou pas, mais il y a plein de morceaux de tout ce que vous voulez en Chine. En France même, la Sécu pourrait être, pour certains, considérée comme un petit élément de communisme, mais qui remet pas en question le fait qu'on soit sous le capitalisme. Enfin bref, c'est très compliqué. Donc, comment dire, l'aspect non téléologique me paraît important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la finalité dans le début d'un mouvement matériel. C'est pas déjà écrit. Ça, c'est quand même un élément idéaliste de croire que les choses ont une fin déjà écrite à l'avance. Donc un mouvement révolutionnaire n'a pas forcément, n'accomplit pas forcément à la fin ou ne résout pas forcément à la fin des questions qu'elle s'était posée au tout début. Juste un exemple qui me vient juste maintenant en tête, c'est qu'en étudiant un peu les collectifs de travail à Cuba, les petites unités, les petits colcos biologiques, là, on se rend compte que la permaculture est de moins en moins physique en termes de travail de la terre. C'est de plus en plus intellectuel, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on va planter là, on va devoir cultiver des vers de terre à un endroit pour les remettre après. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont moins physiques et plus intellectuels. Et du coup, les Cubains se sont rendus compte que dans les collectifs de travail, il y avait de plus en plus de femmes. Jusqu'à ce que les statistiques nous montrent qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes dans ces collectifs. Alors, peut-être, là, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui est peut-être voué à une évolution particulière. Mais vous voyez, il n'y a pas eu d'ambition féministe derrière ça. Et pourtant, la finalité, c'est la résolution de quelque chose qui n'a pas été prévu au début. Le féminisme, c'est quoi? C'est l'égalité homme-femme. Normalement, en tout cas, c'est comme ça que le mouvement marxiste l'a toujours posé. Et donc, dans ce cas de figure, un changement en termes d'agriculture résout à la fois des problèmes environnementaux, mais résout aussi, de façon collatérale, des problèmes qui n'étaient pas forcément encore résolus à Cuba, parce que tout est toujours en transformation, et Cuba a aussi des difficultés, bien sûr, liées au blocus, en particulier, bien sûr. Donc tout se corrige progressivement, et cette question-là est traitée sans avoir été prévue au début. Donc dans mon petit schéma, vous voyez, j'ai mis des trucs en rouge, j'ai mis... Alors ça aussi, c'est après ta discussion, hein, moi j'ai fait ça comme ça. Mais vous voyez, j'ai mis Cuba en bas, à l'intersection entre... la nécessité d'une indépendance nationale et la possibilité légale d'un pays socialiste qui a pris possession de sa terre, mais qui n'a pas le fric, pour dire les choses, hein, ou la science, en tout cas l'investissement scientifique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Tous ceux qui connaissent un peu Cuba savent qu'ils ont des technologies de pointe, hein, concrètement. Mais peut-être, mais pas autant de la Chine, par exemple. Hein. On a bien conscience de la différence d'échelle entre les deux pays. J'ai mis la Chine ici parce que la Chine, c'est-à-dire à l'intersection entre la richesse permettant l'investissement scientifique et technique et la possibilité légale de disposer de son sol et de ses ressources, mais qui est à un stade, disons, où on est plus face à un pays contre-hégémonique qu'à un pays directement impliqué dans le front anti-impérialiste. La Chine est souvent le front arrière des luttes anti-impérialistes aujourd'hui. Peut-être de moins en moins aujourd'hui, hein, on verra ce qui va se passer, les choses bougent très vite aujourd'hui. Mais en tout cas, dans l'état actuel, c'est un peu comme ça qu'on pourrait voir les choses. Il y a des critiques à faire sur la Chine, y compris du point de vue écologique. On peut l'interpréter de cette façon aussi. Et puis j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis encore? Bah tiens, dans les BRICS hors Chine, d'accord, dans les pays des BRICS, mais sans la Chine, il y a aussi des tentations de politique environnementale visant à se départir de l'agro-business, etc. Et donc, cette nécessité de souveraineté nationale et puis cette relative richesse, finalement, des grands pays qui constituent les BRICS, pour l'instant, il n'y a pas la possibilité légale du socialisme de disposer des terres et des ressources comme le font Cuba et la Chine, par exemple. Donc, vous voyez, j'ai mis volontairement rien au milieu, alors qu'en réalité, l'objectif, bien sûr, c'est d'être au milieu, mais dans l'état actuel, tout est en lutte. J'aurais peut-être dû mettre Cuba et la Chine au milieu, ou enfin, voilà. Mais tout ça est discutable. Mais finalement, c'était un peu une façon de planter les différentes contraintes, vous voyez, qui font qu'aujourd'hui, bah oui, il peut y avoir des réussites dans des expériences en Allemagne sur le solaire. Oui, il y a aussi des réussites, mais c'est lié au fait que là, ils sont à une certaine position là-dessus, mais qui pourront jamais aller plus loin. Que Cuba a encore des difficultés qui, j'en suis sûr, arriveraient, parce qu'ils ont été obligés aussi, quelque part, c'est un peu ça l'exaptation, c'est que la période spéciale qui les a fait sortir de force du modèle de l'agro-business, enfin de l'agriculture intensive dans les années 90, ils ont été sortis de force parce que leur partenaire, qui était l'Union soviétique, n'existait plus. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sous blocus, ils n'ont plus le partenaire qui les aidait, ils sont obligés de repenser tout ce qui faisait leur indépendance nationale, en réalité. Et donc, ils passent de force c'est ce qu'on me dit souvent, hein, ouais, mais ils étaient obligés. Bah oui, oui, ils étaient obligés. Et puis après, ils ont pu redévelopper, dans le cadre de l'ALBA, ils auraient pu redévelopper une agriculture intensive comme au début. Ils l'ont pas fait. En tout cas, pas à la hauteur de ce qu'il y avait avant. Ils se sont rendus compte que cette période forcée les avait amenés à un point d'équilibre où ils n'ont pas envie de revenir maintenant à une dépendance sur plusieurs produits de l'agriculture. Donc c'est un acquis. Du coup, c'est un acquis. Alors, je ne dis pas qu'on ne pourra pas revenir dessus. Je ne dis pas que Cuba ne peut pas reculer, hein, des avancées et des reculs. Mais cette marche-là me paraît beaucoup plus intéressante du point de vue matérialiste que de dire dogmatiquement le marxisme conduit à l'écologie, etc. C'est pas suffisant. Il y a des pays qui ne sont pas socialistes et qui voudraient. Moi, je connais bien la Tunisie, où on pose beaucoup là-bas, qui est un pays semi-colonisé, hein, en particulier par la France, et dans lequel l'agriculture est confrontée à des énormes problèmes de prédation de l'agro-business et de prédation de l'impérialisme. Français, mais pas seulement, et qui contraint tous les paysans qui voudraient passer à autre chose à rester dans un cadre qui est complètement hallucinant, alors que c'est un pays qui pourrait tout à fait être autonome à la fois énergétiquement et d'ailleurs les syndicalistes tunisiens regardent, enfin font des voyages à Cuba, hein, pour on le sait pas ici, hein, mais font des voyages à Cuba pour se renseigner sur comment les choses sont posées à Cuba, dans le mouvement des sans-terres en Brésil, dans plein d'exemples où finalement les questions se posent différemment parce qu'elles sont l'objet de luttes qui sont beaucoup plus avancées que chez eux pour des raisons techniques, hein, des raisons de lutte anti-impérialiste. Voilà en gros ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai tout dit? Je regarde un petit peu. Je fais semblant de regarder mes notes. Voilà, peut-être en conclusion, à part, vous me poserez des questions si vous voulez après, si vous n'êtes pas trop fatigué. Mais concrètement, l'écosocialisme, pour revenir un peu au début, l'écosocialisme apparaît, puisqu'il s'agit d'un mouvement de pensée qui ne se concrétise par rien, hein, ce sont des philosophes et des écrivains, hein, et moi ça ne m'intéressait pas à cause de ça. Mais je me dis aussi, selon l'adage léniniste, pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie révolutionnaire? On pourrait tous se dire qu'on l'a déjà. Mais, quelque part, Lénine a réagi comment à l'époque de l'envol de l'impérialisme et de la première mondialisation du début du XXe siècle, Lénine a actualisé le marxisme. Il a produit une œuvre immense d'ailleurs, mais qui est une œuvre fondamentale pour l'histoire du marxisme, face à de nouvelles questions. Celle de l'époque de Lénine, c'était la question anticoloniale et anti-impérialiste. Et puis les questions directement liées à la prise du pouvoir, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on a des questions... Alors moi, je ne vais pas dire que l'écologie est une question centrale de la politique. Hein. C'est pas ce que... Au contraire, même, j'aurais plutôt tendance à dire que, puisque ça peut être collatéral, voilà, c'est... il ne faut pas oublier le cœur de la lutte de classe, bien sûr. Mais même de point de vue collatéral, ça mérite qu'on écoute ce que disent, ou qu'on regarde en tout cas ce que font les autres en Chine et ailleurs, de ce point de vue-là, parce que ces questions ne sont pas sans intérêt, elles sont, moi j'en suis convaincu, hein, des questions de plus en plus cruciales, parce qu'elles sont de plus en plus sociales, en tout cas faisant des dégâts sociaux de plus en plus importants. Et à ce stade, bah, au fond, le réflexe de beaucoup de camarades serait de dire, oui, mais là, vous, où est-ce que vous voulez nous emmener avec votre écologie-là? Nous, on est marxistes, on n'a pas besoin de ça, l'écologie. J'espère vous avoir dit un petit peu qu'effectivement, on n'en a pas besoin, si vous avez compris un peu. Bon, ou si j'étais assez clair. Mais il faut quand même que le mouvement marxiste continue. Et quelque part, il nous manquerait un Lénine de ce point de vue-là. Parce qu'à l'époque de Lénine, allez, je dis ça, mais c'est pas pour personnaliser les choses, mais ou un Lénine ou plusieurs Lénines, ou que sais-je. En tout cas, un praticien qui serait à la fois théoricien et qui permettrait non pas seulement de réactualiser le marxisme à la lumière de ces nouvelles questions, mais surtout d'empêcher le révisionnisme sous l'alibi de ces nouvelles questions. Car à l'époque de Lénine, vous aviez des Kautsky, des Bernstein et bien d'autres, des Bruder et tout ce que vous voulez, qui étaient en réalité des gens qui se sont positionnés face à la nouvelle question de l'impérialisme en disant « mais Marx n'a pas parlé de ça au fond ». Moi, je vais en parler. Et du coup, ce qu'il a dit, Marx, ben, maintenant qu'on voit que l'impérialisme est en train de faire des monopoles alors que tu croyais que c'était la libre concurrence, etc., ça prouve que Marx avait raison dans son analyse du capital, que la plus-value, ça existe, tout ça, mais qu'aujourd'hui, c'est pas la lutte des classes qui va permettre de résoudre la question. Il n'y a qu'à attendre, il n'y a qu'à verser dans le réformisme, dans la social-démocratie, etc. Donc, tous les révisionnistes sont des gens qui ont essayé de dévier la recherche marxiste, en tout cas le mouvement marxiste en termes de théorie, la théorie marxiste, pour l'emmener vers ce qu'on appelle le révisionnisme. D'accord ? Mais le révisionnisme est permanent en réalité. Il y a aussi une lutte pour conserver le marxisme. On dit toujours les orthodoxes, les marxistes orthodoxes, parce que maintenant il faudrait toujours actualiser, etc. Et que donc l'orthodoxie est néfaste et funeste, puisqu'il y a des nouvelles questions et vous ne voulez pas les voir. Mais en réalité, il y a non seulement une nécessité de voir ces nouvelles questions, mais il y a aussi une nécessité de trouver dans le marxisme, donc l'exégèse de Marx de la part de Bellamy Foster et d'autres, de ce point de vue, j'ai changé de position par rapport à ça, je trouve que c'est tout à fait légitime de revenir à Marx pour empêcher ces tentations de révisionnisme qui vont nous emmener, vous savez, les éco-socialistes aujourd'hui, la grande majorité, sont des gens qui disent, bah tiens, il n'y a plus d'ouvriers aujourd'hui. C'est simple, hein, c'est des choses que vous avez déjà entendues en fait. Il y a à la fois des nouvelles questions, mais la classe ouvrière, qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Qu'est-ce qu'elle va répondre au problème du réchauffement climatique? Les ouvriers, ils produisent du CO2, c'est pas eux la solution. Donc ils vont dire des trucs comme ça, après ils vont dire, de toute façon, il n'y a plus de classe ouvrière, c'est fini. Donc la nouvelle classe révolutionnaire, qui n'a jamais été une classe, ce serait la jeunesse, ou... les fonctionnaires, je pense à Bernard Friot, ou les étudiants, bah les jeunes, voilà. Ou les femmes, mais les femmes du point de vue, attention, hein, comme si c'était une classe. Hein. Je ne suis pas antiféministe, hein, puisque j'ai parlé tout à l'heure de comment on pouvait réfléchir à tout ça de façon convergente. Et donc, pour empêcher ces révisionnismes, il faudrait que, au lieu de se méfier de ces questions, à la fois scientifiques et politiques, on les traite réellement. Mais pas les traiter sous la forme seulement d'une exégèse de Marx, mais aussi sous la forme d'un examen attentif et critique des expériences socialistes sur le sujet.
« J'ai J'aimerais dame nature courir nu dans mes chaussures, tout en matière plastique pour prolonger le corps et l'âme. J'aimerais comme un saumon remonter le cours des rivières dans ma belle combinaison pour sauver toute la planète. J'aimerais être généreux, mais que ça coûte pas trop cher. Dame nature, acheter une voiture toute en matière plastique pour prolonger le corps et l'âme. Record vitesse sur la terre pour sauver de la misère tous les gens, toutes les bêtes. J'aimerais blinder mes fenêtres, peur des changements d'atmosphère et des balles de revolver. Donnez-nous dame nature l'amour et la nourriture. Donnez-nous dame nature l'amour, l'argent, la nourriture. Donnez-nous dame nature bonne conscience pour nos bitumes. Gardez-nous dame nature. En matière plastique pour prolonger le corps et l'âme, pour les victimes des ravages, guerre, cyclone et chômage, dans ma belle combinaison, pour sauver toute la planète, j'aimerais posséder la tombe, j'aimerais protéger l'ozone. Donnez-nous dame nature l'amour et la nourriture, donnez-nous dame nature l'amour, l'argent, la nourriture, donnez-nous dame nature, bonne conscience pour nourriture, gardez-nous dame nature. L'amour, la luxure, le bois, les matières plastiques pour prolonger le corps et l'âme. Qu'on m'aime pour mon argent et pour ce que je donne aux autres. Dans ma belle combinaison, pour sauver toute la planète. J'aimerais être généreux, mais que ça coûte pas trop cher. Donnez-nous dame nature l'amour et la nourriture. Donnez-nous dame nature l'amour, l'argent, la nourriture. Donnez-nous dame nature, bonne conscience pour nourriture. Gardez-nous dame nature. Donnez-nous dame nature l'amour et la nourriture. Donnez-nous dame nature l'amour, l'argent, la nourriture. Gardez-nous dame nature, bonne conscience pour nourriture. Gardez-nous dame nature du futur.
Clairement, il va falloir réformer.
On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs.
C'est pas assez violent, tout simplement. Alors, c'est la société française.
Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il ?
Est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler ?
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe.
Le monde est en train de changer. Alors, serez-vous capable de vous adapter ?
Qui souffre le plus de la grève et des blocages ? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte.
Quand on regarde la réforme des retraites, c'est une réforme de gauche.
Oui, parce que les RTT, les 35 heures à l'hôpital ont désorganisé l'hôpital public.
Il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas. On n'a rien fait de mal.
On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
L'heure de le mettre, mercredi à 18h30 sur Radio Campus 106,6.
Radio Campus.
Bonjour à tous.
définitivement à l'encontre de l'humanisme de Chalgoum.